15 Français ont reçu le prix Nobel de littérature depuis sa création.
Et on est allé mettre le maître.
Il va essayer de transformer sa propre réalisation.
Essai !
Magnifique coup de pied par-dessus la défense.
Oui, alors l'actualité est très liée au 75e anniversaire de la libération des camps de concentration et d'extermination. Et j'ai entendu une statistique montrant que un Français sur six n'avait jamais entendu prononcer le mot Shoah, et donc ne savait pas de quoi il s'agissait. Ça pouvait aller jusqu'à 40% aux États-Unis. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, il fallait que je choisisse un texte peut-être pour rappeler ou pour conseiller une lecture qui me paraît pour moi essentielle. Et c'est le texte de Primo Levi qui s'appelle « Si c'est un homme », qui est sans doute un des témoignages les plus poignants qu'on puisse imaginer. Mais quand je dis poignant, c'est-à-dire captivant, et pas forcément du côté, disons, de la larme à l'œil. Ça n'est pas du tout le but. Et j'aime beaucoup ce qu'on dit de Primo Levi, dont je rappelle qu'il est né donc, au début du XXe siècle, enfin en 1919, et qu'il a fait d'abord des études de chimie avant de se lancer dans la rédaction de nombreux ouvrages qu'il a pu écrire. Et le texte, donc, « Si c'est un homme » qui est paru en 1947, explique un petit peu le fait qu'il a été arrêté comme résistant en février 1944 et déporté à Auschwitz, où il restera jusqu'en janvier 1945, date de la libération du camp par les soviétiques. Alors ce que dit Angelo Rinaldi, il dit « On est volontiers persuadé d'avoir lu beaucoup de choses à propos de l'Holocauste, on en est convaincu d'en savoir au moins autant. Et convenons-en avec une sincérité égale au sentiment de la honte, quelquefois devant l'accumulation on a envie de crier grâce. C'est ce que l'on n'a pas encore entendu, Lévy, analyser la nature complexe de l'état du malheur. Peu l'ont prouvé, aussi bien que Lévy, qui a l'air de nous retenir par les basques au bord du menaçant oubli. Si la littérature n'est pas écrite pour rappeler les morts aux vivants, elle n'est que futilité. » Je rappellerai également la fameuse phrase de Bertolt Brecht qui disait que le monstre est encore fécond, d'où la bête immonde a surgi. Alors je voudrais vous lire, non pas un extrait du livre, mais plutôt l'extrait d'une conversation qu'il a eue après la publication de ce livre, et on lui pose des questions assez étonnantes. Et donc je vous lis la question et je vous lirai la réponse. Il dit « Dans votre livre, dit le journaliste, on ne trouve pas de traces de haine à l'égard des Allemands, ni même de rancœur ou de désir de vengeance. Leur avez-vous pardonné ?» Et il répond « La haine est assez étrangère à mon tempérament. Elle me paraît le sentiment bestial et grossier, et dans la mesure du possible, je préfère que mes pensées et mes actes soient inspirés par la raison. C'est pourquoi je n'ai jamais, pour ma part, cultivé la haine comme désir primaire de revanche, de souffrance infligée à un ennemi véritable ou supposé, de vengeance particulière. Je dois ajouter, à en juger par ce que je vois, que la haine est personnelle, dirigée contre une personne, un visage. Or, comme on peut voir dans les pages même de ce livre, nos persécuteurs n'avaient pas de nom. Ils n'avaient pas de visage, ils étaient lointains, invisibles, inaccessibles. Prudemment, le système nazi faisait en sorte que les contacts directs entre les esclaves et les mères fussent réduits au minimum. Vous aurez sans doute remarqué que le livre ne mentionne qu'une seule rencontre de l'auteur protagoniste avec un SS. Et ce n'est pas un hasard si elle a lieu dans les tout derniers jours du Lager, alors que celui-ci était en voie de désagrégation, que le système concentrationnaire ne fonctionne plus. D'ailleurs, à l'époque où ce livre a été écrit, c'est-à-dire en 1946, le nazisme et le fascisme semblaient véritablement ne plus avoir de visage. On aurait dit, et cela paraissait juste et mérité, qu'ils étaient retournés au néant, qu'ils s'étaient évanouis comme un songe monstrueux, comme les fantômes qui disparaissent au chant du coq. Comment aurais-je pu éprouver de la rancœur envers une armée de fantômes et vouloir me venger d'eux ? Dès les années qui suivirent, l'Europe et l'Italie s'apercevaient que ce n'était pas là qu'illusion, naïveté. Le fascisme était loin d'être mort. Il n'était que caché, enkysté. Il était en train de faire sa mue pour réapparaître ensuite sous de nouveau dehors, un peu moins reconnaissable, un peu plus respectable, mieux adapté à ce monde nouveau né de la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale que le fascisme avait lui-même provoqué. Je dois avouer que, face à certains visages, à certains vieux mensonges, aux manœuvres de certains individus en mal de responsabilité, à certaines indulgences et connivences, la tentation de la haine se fait sentir en moi, mais même violemment. Mais je ne suis pas un fasciste. Je crois dans la raison et dans la discussion comme instrument suprême de progrès, et le désir de justice l'emporte en moi sur la haine. C'est bien pourquoi, lorsque j'ai écrit ce livre, je délibérément recouru au langage sombre et posé du témoin plutôt qu'un pathétique de la victime ou de la véhémence du vengeur. Je pensais que mes paroles seraient d'autant plus crédibles qu'elles apparaîtraient plus objectives et dépassionnées. C'est dans ces conditions seulement qu'un témoin appelé à déposer en justice remplit sa mission, qui est de préparer le terrain aux juges. Et les juges, c'est vous.